Et vous avez reconnu notre générique, le générique que vous écoutez toutes les semaines. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, toute l'actualité théâtrale sur Montpellier. Je suis avec les chroniqueurs de Vendredi Théâtre. Bonjour Tito Livio, l'inénarrable Tito Livio.
Bonjour.
Et je suis avec le fringant Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Un premier plateau où nous allons faire du marivaudage, puisque nous allons parler des serments indiscrets de Marivaux. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Cécile Garcia-Faugel, bonjour, et Olivier Werner,
bonjour.
Bonjour. Alors, les serments indiscrets, il s'agit donc d'une comédie de Marivaux en 5 actes qui a été créée, si je ne m'abuse, en 1732. Alors, j'ai retrouvé un petit résumé que donne Marivaux lui-même de sa pièce. Je vais vous la lire. Les personnages savent fort bien qu'ils s'aiment, mais ils ont juré de ne pas se le dire et ils cherchent comment ils pourront s'expliquer sans se donner un démenti. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit ?
Oui, à peu près.
Alors, cette comédie de Marivaux, donc en 5 actes, nous sommes donc 3 à l'avoir vue. Tito, est-ce que tu veux commencer ?
Ah, bon. D'abord, c'est un. J'avais lu que le metteur en scène avait travaillé avec la compagnie avec le Théâtre du Soleil, ce qui est une indication assez intéressante parce qu'après on voit qu'il a quand même pas mal voyagé. Mais il y a une chose quand même qui est restée de ce passage à mon avis qui ressort, qui est le fait que. Il n'est jamais là où on l'attend, c'est-à-dire, par exemple, le jeu, surtout au niveau du jeu des acteurs, me faisait toujours penser à Ian Mnouchkin, cette façon de dire les scènes presque à contre-emploi de ce qu'on s'attend qu'elles soient dites. Et du coup, on voit énormément de choses. Alors, il y a un petit temps d'adaptation, puisqu'on est un peu décontenancé justement par cette façon de jouer, hein, de jouer les scènes. Et après, tout se met en place. C'est quelque chose que je trouve très agréable. Moi, j'aime bien être surpris, j'aime bien être décontenancé et être presque en porte-à-faux avec ce qui se passe. Et puis, voir que les choses se s'ordonnent et s'emboîtent et que tout ça, ça a un sens. Et surtout qu'on me donne du sens au texte, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à le jouer comme ça, on s'attend qu'il soit joué, mais qu'on me fasse voir des choses que je n'aurais pas vues autrement. Voilà. Et ça, c'est très réussi.
Christopher.
Oui, bon, c'est une pièce que j'ai beaucoup... J'ai passé un bon moment en voyant la pièce. Dans la présentation de la pièce, je dois... On voit que c'est une pièce qui bien qu'elle était écrite en 1732, hein, donc est une pièce qui semble toujours d'actualité. C'est l'impression que j'avais. Il me semble Marivaux doit être au programme scolaire. Il y a eu beaucoup de scolaires présents. C'est peut-être un peu difficile pour les cinquièmes de rentrer dans le langage. En tout cas, pour ceux qui étaient derrière moi, ça avait l'air difficile. Moi, j'ai beaucoup aimé donc, ce mélange entre modernité et tradition, finalement, entre tradition et modernité, puisqu'on a une pièce qui a près de 3 siècles, qui est interprétée, finalement, d'une manière un peu plus moderne. Ça rappelle l'actualité, la pensée, les problèmes que peuvent se poser des jeunes qui veulent la liberté, qui veulent s'aimer, qui ne savent pas quoi choisir. Le mariage, le poids de la société sur les liens, est-ce que c'est un poids qui finalement... parce que le personnage principal, c'est surtout la Lucille, j'ai l'impression. Est-ce que ce poids du mariage, est-ce que c'est à l'époque c'était surtout sur les femmes? Est-ce que c'est toujours comme ça de nos jours? Est-ce que ça change?
J'espère que non. Après, j'ai l'impression aussi que le poids est porté aussi sur le personnage de Damis, puisqu'ils sont noués par une proposition des pères. Dans laquelle il se questionne en urgence, en fait, sur là, parce qu'il y a quand même toujours urgence. Donc c'est vrai que Marivaux développe beaucoup la peur de Lucille et sa pensée par rapport à ça, ce qui est très intéressant toujours chez cet auteur, puisqu'on n'a pas ça chez Shakespeare toujours, par exemple, sauf quelques comédies, mais des femmes qui ont un accès comme ça, des personnages féminins à une réflexion sur la liberté ou la vie, ou aussi forte que dans ce théâtre classique qui est le nôtre, qui est quand même assez fort. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, les jeunes se posent toujours les questions de la liberté. La liberté, ça reste un questionnement permanent, même si nos parents sont plus là pour nous obliger à nous marier. Mais il y a quand même toujours... Après, il y a peut-être certaines sociétés où ça existe encore, hein, ce problème du mariage arrangé. Mais bon, en France, je pense qu'on est un peu tranquille quand même.
Mais justement, le mariage, semble-t-il, il y a des périodes où il est passé de mode, où ce n'est...
Là, ça revient.
Ça revient avec les dernières thématiques. Peut-être que ça va au-delà du mariage, la question dans la pièce.
Moi, j'ai l'impression que, en fait, la pièce, elle parle du mariage, elle parle d'un mariage arrangé par des parents, même si très vite Marivaux montre des personnages de parents très conciliants par rapport au mariage. Donc, finalement, la question, c'est pas tellement. Même si à l'époque ça pouvait paraître déjà presque féministe de laisser parler une femme comme ça, de choisir aussi si ou non elle allait accéder ou accepter le prétendant qu'on lui proposait. Ça parle beaucoup, et c'est vrai que moi j'en ai parlé un peu avec des jeunes qui ont vu le spectacle et qui disent « ouais, ça parle de l'engagement, de la notion d'engagement ». Et c'est là où ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que pour le coup, mariage ou pas, le lien qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que l'idée de s'engager avec quelqu'un, ça c'est moins simple aujourd'hui, où finalement on a la sensation de perdre une liberté dans le fait de s'engager, et je pense que c'est beaucoup ce qui est au cœur de leur relation dans l'histoire, c'est qu'est-ce que ça implique de s'engager, même si ça se termine, et on sait que ça se termine souvent comme ça, ça a lieu finalement, mais quelque part c'est comme si finalement toute la pièce c'était comment on va pouvoir retarder le moment que le contrat soit scellé et qu'on se devienne marié et femme, quoi. Comment on va essayer de s'accorder et de s'ébrouer, de se dire pendant un moment « mais non, ma vie m'appartient et j'ai beau ressentir ce que je ressens pour toi, zut quoi, c'est bon quoi, j'ai l'impression de perdre quelque chose ». Et c'est là où ça rejoint des propos qu'ont contenus des jeunes qui ont vu la pièce, qui se reconnaissaient à cet endroit-là finalement, dans la notion d'engagement en fait.
Tito, tu voulais intervenir. Ouais,
c'est là qu'intervient la date de la pièce, puisque là, je n'ai pas les dates en tête de succession des rois, mais on est juste après la régence. Donc, il y a une période de grande liberté, du moins à la cour, hein, de grande libération des mœurs. Et importance des femmes, d'ailleurs, puisque sous la régence, les femmes avaient de l'importance à la cour. Et après, on est sous Louis XV. Ça me fait penser quand même que les grands écrits sur les femmes, philosophiques sur les femmes, et justement sur la question de la façon de la nouvelle Héloïse, etc., ça vient bien 20 ans après ça, 20 ans ou même 30 ans, 25 ans après. Mm-hmm. Donc ça devait quand même choquer encore énormément de parler comme ça, de laisser une femme déjà pendant pratiquement toute la pièce dire librement ce qu'elle pensait. Dans nos campagnes, en Europe, il y a encore dans les familles, qui ont des terres ou des choses comme ça, les filles n'ont pas cette liberté de refuser le bon fiancé qui aura les terres à côté qui intéresse papa. Mmh. Donc ce n'est pas si vieux que ça. Et surtout, c'est cette liberté pour les femmes. Là, on se questionne justement sur les questions des femmes, là, en ce moment, même en politique. Et on voit que c'est quand même quelque chose que... Espérons, ça ne va pas continuer de revenir tout le temps, pour des mauvaises raisons, quoi. Parce que finalement, ce sont des questions qu'on se posait, et on se demande si on ne se posait pas tout le temps de fait.
C'est vrai aussi qu'il y a deux personnages très importants dans la pièce, c'est le valet et la servante, qui sont un petit peu en sous-main dans toutes ces intrigues.
Oui, eux, ils profitent en fait. Ils ont un petit peu analysé le patrimoine, Et ils essayent de voir comment ils peuvent profiter de cette, de ce célibat que chacun des deux jeunes premiers revendique, comme un, bon, tout en voilà, ils sont sur une stratégie de monter en grade, de prendre du galon. Parce que comme la mère est morte, certainement les mères sont pas là. Mm-hmm. Bon, alors après on peut faire de la psychologie à deux balles, mais il y a jamais les mères dans ces trucs-là. Chez Shakespeare, on a exactement le même truc. Alors du coup, Lisette peut représenter une mère symbolique. Et si Lucile se marie pas, si Damis ne se marie pas, Frontin et Lisette deviennent quand même presque, enfin, tiennent les rênes de la maison, y compris au niveau des finances, j'imagine. Mmh. Quoi, ça, ça.
Mais il y a des passages très drôles avec Frontin. À un moment, on menace de déshériter Damis, et Frontin dit « Nous sommes déshérités », je crois, quelque chose comme ça.
Ah oui, on est, c'est des personnages assez noirs, hein, assez sombres. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était une volonté de Christophe, justement, de, que ce soit très sombre.
Mais ce qui est étonnant aussi dans la pièce, c'est que somme toute, les deux pères sont plutôt de bonne composition. C'est pas, ils essayent d'écouter les inclinations des uns et des autres. Ça change de temps en temps. Ils disent, bon, ben, tu veux pas épouser celle-là, tu peux épouser la sœur. Puisque c'est, est-ce que tu es plus attiré par l'une ou l'autre des deux sœurs?
C'est le paquet qu'on met à la place.
On est quand même dans une génération qui, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, ce qui est important, c'est de faire un mariage.
Bien sûr.
Et de faire en sorte que les gens de bonne famille rencontrent les gens de bonne famille. Hein. Je veux dire, quand même, Marivaux, là, il montre deux pères qui appartiennent à une génération où on reste un peu entre soi, quand même. Hein.
C'est... Enfin, ce qui est marrant dans ce que fait Christophe, je ne sais pas si ça se voit encore, parce que pendant les répètes, ça se voyait beaucoup, c'est que par moments, on a le sentiment que les deux pères s'aiment.
Oui.
S'aiment d'amour, presque. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si tu vois... Là. Et en répétition, ça nous faisait beaucoup rire, ce truc-là. Bah, on se demandait qui voulait épouser qui, en fait. C'est limite.
Ils font affaire, en fait, avec le mariage. Ouais. Quand même. Ils font affaire. Et bon, peu importe que tu...
D'ailleurs, le grand moment des mariages, c'était le contrat.
Historiquement, le mariage, c'est ça. Hein, c'est
voilà, le mariage, c'était une fête. Le moment sérieux, c'était le contrat. Hein, c'était le contrat de mariage qui était le moment sérieux. Après, c'était une fête.
Juste. Pour montrer que la pièce... Je pense qu'elle analyse, l'analyse va au-delà de la simple question du mariage. C'est qu'on a ce petit interprète, intermède musical de Brassens qui est la non-demande au mariage. Hein. Ouais. Ça montre bien que la question est plus celle de l'engagement, qu'on n'a pas forcément besoin du contrat, du mariage.
Non, Brassens, c'est un... Enfin, c'est, esthétiquement, c'est une intrusion qui est assez intéressante, je trouve.
La non-demande en mariage.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, elle est dite en intégrale, si je me souviens.
La chanson.
Elle est coupée à la toute fin.
Ah ouais.
Oui. Ce qui est rare au théâtre.
Ouais, non, c'est bien. En plus, ça fait une pause comme ça dans le spectacle après un moment très très animé, en fait. Ça fait tout d'un coup une espèce de ça d'intermède. Ça prend une place d'intermède après, c'est assumé comme tel d'ailleurs.
Pour revenir au Théâtre du Soleil, je comprends ce que vous dites sur une manière un petit peu de prendre les choses à l'envers ou autrement, de traiter une chose par, comment dire, on va attraper une chose du corps en se disant mince, ça ne correspond pas au texte, et puis à un moment donné, ça va se retourner, la peau du texte va se retourner, puis on va retomber sur ses pattes. Donc c'est vrai que Ariane, elle pourrait avoir tendance à travailler comme ça sur sa mise en scène, quoi. Sur, mais je pense pas que Christophe, après toutes ces années, enfin on en a jamais parlé d'elle.
Ah, il n'est pas enfermé là-dedans.
Non, pas du tout. Il est plus en fait marqué par Besson, Beno Besson.
Oui, je suis d'accord.
Mais
j'avais en tête tout le temps souvenir de, par exemple, d'un Tartuffe il y a quelques années. Qui était tout à fait comme ça. Chaque fois qu'il y avait une scène, elle n'était pas du tout jouée comme on s'attendait. C'était pas que le déplacement d'endroit, le fait que ça se passait en Palestine et non pas... Mais c'est la façon de faire.
Chaque
fois, c'est jamais joué comme on s'attend.
Oui.
On n'a pas précisé que la mise en scène est de Christophe Roque.
Oui.
Non, on a oublié de le citer. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit extrait?
Ben on va essayer. L'acte 2, c'est ça ?
C'est l'acte 2, c'est pas...
C'est une scène entre Lucile et Damis dans l'acte 2. on va pas vous la jouer parce qu'on est à la radio, on va vous la dire tout simplement. On va se la parler déjà.
On sait pas où on va s'arrêter.
si vous nous arrêtez, hein. Eh bien, donc les deux pères sont sortis, ils leur ont dit on va vous marier, c'est une question de temps. Ça va se faire, alors qu'eux sont déjà pas trop d'accord sur le principe.
Enfin, eux sont pas d'accord, et le père dit non, mais c'est juste une petite
beaucoup de délicatesse
appréhension,
entre vous,
mais tout va. Voilà, donc du coup, ils remettent un 24 heures d'ultimatum.
D'ultimatum, quoi. Ouais. Eh bien, dans ce qui vient de se passer, j'ai fait le mieux que j'ai pu. J'ai tâché dans mes réponses de ménager vos dispositions de bienséance, mais que pensez-vous de ce qu'ils disent ?
Qu'effectivement, ceci commence à devenir difficile.
Très difficile, au moins.
Oui. Il en faut convenir. Nous aurons de la peine à nous tirer d'affaire.
Tant de peine que je ne voudrais pas gager que nous nous en tirions.
Comment ferons-nous donc ?
Ma foi, je n'en sais rien.
Vous n'en savez rien, Damis ? Voilà qui est à merveille, mais je vous avertis d'y songer pourtant, car je ne suis pas obligée d'avoir plus d'imagination que vous.
Oh, parbleu, je ne vous en demande pas au-delà de ce que j'en ai non plus. Cela ne serait pas juste.
Mais prenez donc garde, si nous en manquons l'un et l'autre, comme il y a toute apparence, je vous prie de me dire où cela nous conduira.
Je dirai encore de même, je n'en sais rien, et nous verrons.
Le prenez-vous sur ce ton-là ? Oh, j'en dirai bien autant, je n'en sais rien, et nous verrons.
Mais oui, madame, nous verrons, je n'y sache que cela, moi, que puis-je répondre de mieux ?
Quelque chose de plus net, de plus positif, de plus clair. Nous verrons ne signifie rien, nous verrons qu'on nous mariera, voilà ce que nous verrons. Êtes-vous curieux de voir cela ? Car votre tranquillité m'enchante. D'où vous vient-elle ? Quoi ? Que voulez-vous dire ? Vous fiez-vous à ce que votre père et le mien voient que leur projet ne vous plaît pas ? Vous pourriez vous y tromper.
Je m'y tromperai sans difficulté, car ils ne voient point ce que vous dites là.
Ils ne le voient point ?
Non, madame, ils ne sauraient le voir, cela n'est pas possible. Il y a de certaines figures, de certaines physionomies qu'on ne saurait soupçonner d'être indifférentes. Qu'est-ce qui croira que je ne vous aime pas, par exemple ? Personne. Nous avons beau faire, il n'y a pas d'industrie qui puisse le persuader.
Cela est vrai. Vous verrez que tout le monde est aveugle. Cependant, monsieur, comme il s'agit ici d'affaires sérieuses, voudriez-vous bien supprimer votre « qui est-ce qui croira ?» qui n'est pas de mon goût et qui m'a tout l'air d'une plaisanterie que je ne mérite pas. Car que signifie, je vous prie, ces physionomies qu'on ne saurait soupçonner d'être indifférentes ? Et que sont-elles donc, je vous le demande ? De quoi voulez-vous qu'on les soupçonne ? Est-ce qu'il faut absolument qu'on les aime ? Est-ce que j'ai une de ces physionomies-là, moi ? Est-ce qu'on ne saurait s'empêcher de m'aimer quand on me voit ? Vous vous trompez, monsieur, il en faut tout rabattre. J'ai 1000 preuves du contraire et je ne suis point de ce sentiment-là. Tenez, j'en suis aussi peu que vous qui vous divertissez à faire semblant d'en être. Et vous voyez ce que deviennent ces sortes de compliments quand on les presse.
Bravo, bravo, merci. Je sais que c'est un exercice difficile de passer du plateau au micro. Merci, je vais rappeler que nous parlons des serments indiscrets de Marivaux qui a lieu actuellement au 13 vents. Alors ce soir, c'est à 20h30 et samedi, c'est à 19h. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés
pour
ce premier plateau. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de Mozart dans la mise en scène de ce Marivaux. Donc j'ai choisi comme pause musicale un petit extrait des Noces de Figaro, l'une des meilleures versions jamais enregistrées. C'était en 1952 avec Herbert von Karajan à la baguette. Et nous allons entendre Elisabeth Schwarzkopf.
Thank you.
Il est vraiment magnifique cet extrait des Noces de Figaro avec Elisabeth Schwarzkopf en soprano. Vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale. Et Robin nous a rejoint dans le studio. Bonjour Robin.
Bonjour.
Un deuxième plateau, nous allons parler de la croisade des rabat-joie. Nous allons à Bourgognan et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Daniel Villanova. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous reçoit à Vendredi Théâtre.
Merci, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'y venir.
Alors à Bourgognan, qu'est-ce qui se passe à Bourgognan? Il paraît qu'on aurait découvert du gaz de schiste à Bourgognan.
Eh oui, vraiment, on n'a pas de chance. On était peinards, mais alors on ne pouvait pas savoir. On était presque un village idéal, quoi. Et patatras, il a fallu que, évidemment, vous savez qu'il y a des grands projets dans tout le Midi, entre Narbonne et Marseille en plage. On est riche en gaz de schiste, nous, dans le Midi, comme dans les Cévennes, comme dans la région parisienne, comme dans beaucoup de points de France actuellement. Et il y a des appétits énormes qui se font jour.
Il y a des gros intérêts.
Il y a des gros intérêts. Il y a des vautours qui sont là, qui planent au-dessus du désastre en cherchant le meilleur morceau, hein, comme je dis dans la pièce. Et Bourgognan, malheureusement, n'échappe pas à la règle. On a trouvé du gaz de schiste dans le sous-sol.
Et ça commence, le spectacle commence avec Lucette qui nous dit bah, ça se passe très mal à Bourgognan avec ce gaz de schiste.
Oui, Lucette est toute révoltée, elle est toute tourneboulée, ça va pas quoi. Il y a vraiment un gros problème quoi.
Robin, tu n'avais jamais vu Daniel sur scène ?
Non, j'avais d'ailleurs rarement vu des one man shows au théâtre, c'était pas mon théâtre de prédilection. Et bon, j'étais agréablement surpris parce que il y avait à la fois une légèreté et puis une appréhension de la réalité, du quotidien des gens qui n'étaient pas dans des envolées lyriques ou une espèce de mise en avant de l'acteur sur lui-même, sur ses blagues. Et du coup, c'était vraiment plaisant parce que c'est marrant, j'ai retrouvé des personnages de mon quotidien à moi. moi, j'ai grandi dans un petit village aussi dans le Gard.
Ouais.
Et la grand-mère que tu fais, la grand-mère espagnole qui fait ses tortillas. Et ben, moi, j'avais exactement la même dans mon village. Et du coup,
forcément.
Ce personnage, ce type de théâtre où on retrouve des types de personnes presque à la Molière, mais du coup, dans une remise au goût du jour et avec des publics. Du coup, qui côtoie tous ces personnages-là, parce que toi, t'es de la région, et le public, j'ai eu l'impression que c'était un public qui te suivait depuis un petit bout de temps.
Oui.
Et du coup, il y a une histoire qui se développe à travers ce théâtre. Et moi, qui n'ai pas vu les deux dernières pièces, j'imagine que ça doit être intéressant de suivre le travail qui est fait par rapport à la vie de ces personnages, qui finalement suivent l'actualité politique et du monde comme nous on la suit, mais du coup à travers ton regard et à travers l'humour. Et voilà, il en ressort quelque chose de revigorant.
Ben merci. Je suis heureux que notre premier contact ait été fructueux.
C'est vrai qu'il y a un aspect tonique, comme dans tous vos spectacles, dans cette croisade des rabat-joie. Alors les rabat-joie, c'est qui exactement?
Alors les rabat-joie, c'est ce que dit Lucette à un moment donné, c'est ce qui dénonce ces projets de fracturation hydraulique, hein, et d'exploitation de gaz de schiste, alors que tout le village, finalement, peu à peu cède aux sirènes de la propagande, hein, parce qu'il s'agit d'une véritable propagande pro-gaz de schiste, en disant ça va créer des emplois, c'est l'énergie de demain, c'est tout le discours qu'on entend, c'est le progrès, on va rester à la traîne des autres pays si on ne le fait pas, enfin tout ce poids, ce rouleau compresseur de la propagande capitaliste, hein, parce qu'on peut parler de propagande capitaliste comme on parlait avant de propagande soviétique, c'est-à-dire que le phénomène historique qui s'est passé, c'est que après la chute du mur de Berlin, le capitalisme a pris à son compte tous les aspects pervers de du stalinisme, du communisme d'État. Et maintenant, bon, la pensée unique, l'information contrôlée, sauf rares exceptions dont vous faites partie, bien entendu.
Difficilement.
Voilà, le poids de l'idéologie dominante, le contrôle social, tout ce dont avait rêvé Staline et ses comparses, c'est le capitalisme qui est en train de le réaliser d'une façon un peu plus sournoise. Hein. Donc, les habitants de Bourgognan, ils sont pas en dehors du monde, comme tu l'as très bien perçu. Ce sont des gens qui existent, des gens de chair et d'os, auxquels moi je prête mon corps et ma voix, mais ce sont eux qui parlent, qui s'expriment, qui vivent dans ce monde-là. Donc, eux ne sont pas insensibles à ce poids de la propagande. Et leur raison chancelle un peu, etc. Mais il y a un personnage qui est un personnage qui est extrêmement précieux pour moi, qui s'appelle Jean-Charles, qui est une espèce je l'avais déjà mis en scène à plusieurs reprises, et notamment dans le dernier, qui s'appelait Jean-Charles le Président, que j'ai joué pendant la campagne électorale présidentielle, la dernière. Avec beaucoup de succès, parce que c'est un esprit libre, c'est une espèce d'anarchiste qui s'ignore, dans le sens où il ne professe pas une idéologie au carré, au cordeau, il ne sait même pas. Enfin, c'est pas qu'il ne sait pas. Oui, c'est une espèce de zazou, d'esprit libre, moi je dirais.
Frondeur.
Dans l'Antiquité, un frondeur. Dans l'Antiquité, on n'aurait pas appelé ça un esprit follet. Un esprit libre qui ne se laisse pas facilement embringuer dans des carcans et qui ne se laisse pas facilement duper, parce qu'il a l'ironie, il a toujours le regard, ce regard décalé, il voit toujours derrière les choses, quoi. C'est un personnage extrêmement précieux. Et le rabat-joie, en fait, c'est lui. C'est lui et son équipe, quoi, qui sont là, qui disent aux gens, qui essaient de dire aux gens, attention, quoi, c'est pas tout à fait comme on vous le dit, quoi. Faites attention, restez. Le message du spectacle, c'est restez toujours critique. Ne vous laissez pas endormir par les idées reçues, par les évidences qu'on vous met devant, et notamment à travers cet ennemi public numéro un qu'est la télévision.
Alors c'est vrai que dans le précédent spectacle, donc dans Jean-Charles Président, c'était Sarkozy qui en prenait plein la poire. Oui. Et là, il y a d'autres hommes politiques qui en prennent plein la poire. Il y a Hollande, il y a Valls, il y a Rocard aussi qui en prend plein la tronche.
Oui, parce qu'il s'est déclaré pro-gaz de schiste, alors que bon... j'en parle dans le spectacle. On a l'impression que c'est ce que dénonce le spectacle, qu'une espèce de personnel politique qui s'est distribué, toi à droite, toi à gauche, mais qui en fait est là pour justifier la marche du même système, quoi, hein. Ils viennent tous de la bourgeoisie, ils passent tous par les mêmes écoles, et finalement ils font partie d'un système pseudo-démocratique où pour fonctionner on a besoin de donner l'illusion qu'on a le choix, qu'on a deux camps opposés, alors qu'au fond, c'est le même système qui est mené par eux, pérennisé par eux. On va dans la même voie, à quelques détails près, et c'est un personnel politique dont le capitalisme a besoin. Une droite, une gauche, pour donner aux populos l'impression que le peuple a... par son vote, le choix entre une chose et l'autre. En fait, au fond, on se rend compte qu'il n'y a pas de choix, quoi. Que la droite et la gauche vont dans la même voie.
Vers la voie du libéralisme.
Vers la voie du libéralisme à outrance, hein, du capitalisme libéral, et que, notamment en ce qui concerne le gaz de schiste, puisque c'est de ça dont il s'agit principalement dans le spectacle, on ne voit pas la différence, si ce n'est que dans un camp, on va y aller peut-être plus brutalement, et dans l'autre, on fait la même chose, mais en louvoyant, en disant, ne disant pas, en disant tout et son contraire, en donnant l'impression qu'il y a débat, alors que les choses sont gagnées d'avance, jouées d'avance, quoi.
Et finalement, Jean-Charles, du coup, lui, il n'a pas choisi cette voie, en fait. Il n'a pas choisi la voie du débat direct. Mais parce que du coup, il se trouve heurté à cette inconscience des gens, du coup, qui ne veulent pas forcément faire l'effort d'aller vers l'information, ou qui simplement la reçoivent et sont un peu subjugués par tous les experts, par l'autorité politique. Et du coup, il va chercher le moyen détourné pour informer. Il réfléchit, en fait, à savoir mais comment est-ce qu'on va bouger les gens, comment est-ce qu'on va propager l'information, et plus que propager l'information, propager la sensibilité et la rage aussi. Et finalement, c'est marrant parce que ils ne trouvent pas de solution. Enfin, ils ne trouvent pas de solution. Dans le concret, dans le réel, dans le présent, ils ne passent pas par une solution qui serait une assemblée de villages. Et du coup, ils choisissent, la voie de la fiction et de la démence pour arriver à son but. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui te mène vers cette voie de la fiction pour la dénonciation, finalement, qui se retrouve dans le
théâtre? Parce que je pense que le théâtre doit d'abord raconter une histoire. Bertolt Brecht le disait, le premier but du théâtre, c'est de divertir. N'en déplaise aux tenants de la culture officielle, des théâtreux officiels qui sévissent à droite et à gauche, et surtout à gauche. C'est de divertir. Donc, je pense qu'on est dans une société qui fait tout pour atrophier l'imaginaire. Et le théâtre, on le voit, avec la télévision, les idées reçues, les images plaquées, etc. Le rôle du théâtre, le théâtre n'a pas de sens s'il ne se donne pas pour but de contrecarrer cette sclérose de l'imagination. Il faut que sur la scène du théâtre règne l'imaginaire, règne l'imagination, qu'on fasse exploser le carcan de la pseudo-réalité, parce que la réalité, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. La réalité est selon qui la voit. Oui. Donc, le théâtre est le lieu idéal pour faire exploser. Et je crois que effectivement, ça a beaucoup plus de force si on s'appuie sur une fiction, si on va chercher si on fait exploser les carcans de ce réalisme, ça a beaucoup plus de force, de poésie, et que de rester au ras de cette réalité qu'on veut nous imposer. Et je crois que la poésie, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur la scène.
Moi, il y a le personnage que j'aime bien, c'est Lucette. Oui. Et Lucette, à un moment, elle nous parle du mariage pour tous. Et il y a un petit côté, moi, qui suis un bouffeur de curé, que tout le monde connaît.
On partagera le repas.
À table. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait avec Lucette qui nous parle donc de ce mariage pour toutes,
bien
pour
sûr. Tous? Oh, écoutez, cette Frigide Barzola, quelle écouille cette femme. Si c'est une femme, quelle affaire avec ce mariage homosexuel. Alors que comme disait mon père, et il avait bien raison, papa il disait, le mariage c'est comme une forteresse encerclée. Ceux qui sont dehors veulent y rentrer, et ceux qui sont dedans demanderaient qu'à en sortir. Oh, quelle affaire. D'ailleurs, en parlant de ça, mon fils Guitou, mon petit, il m'a fait lire un article d'un certain Michel Serres. Michel Serres, je ne le connaissais pas, moi, cet homme, mais franchement, champion, je me suis régalé, ma fille, de lire cet article. Il disait, cet homme, que dans cette histoire du mariage homosexuel, l'Église catholique, elle ferait mieux de la fermer. Bon, il ne disait pas ça comme ça, bien entendu, mais ça revenait à ça. Parce que comme il expliquait, le bon modèle pour les catholiques, c'est la Sainte Famille. Il n'y a rien de mieux que la Sainte Famille. Bon, et c'est quoi la Sainte Famille? Sans vouloir faire la mauvaise langue. Mais regardez, le Père, c'est pas le Père. Joseph, c'est pas le père de Jésus. Le père de Jésus, on ne sait pas trop, il est partout, mais comme les gens qui sont partout, il est nulle part. Le Fils, c'est pas le Fils. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est pas le Fils de Joseph. Joseph, c'est que le père adoptif. En plus, il a jamais couché avec la mère, puisque la mère, elle, oui, c'est la mère, mais elle est vierge, peu chère. Au fond, elle a rien demandé, cette femme. Ça lui est tombé dessus, voilà, comme ça. Ça, c'est comme quand un pigeon te chie sur la tête. C'est pareil, qu'est-ce que tu veux faire D'ailleurs, messieurs, dames, d'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est un pigeon, Alors, comprenez-moi, messieurs, dames, comprenez-moi, je ne veux offenser personne, je ne veux pas dire que la Vierge s'est faite engrosser par le premier pigeon venu. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand les catholiques, ils disent qu'avec la gauche, on va finir par se marier avec des animaux, eh bien, c'est peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent.
Voilà, merci, Daniel.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Je rappelle qu'il s'agit de la croisade des rabat-joie sur la
pluie. Nogazarin.
Voilà. Ouais. Et c'est à Théâtre Jean Villard. Et ce soir, c'est la dernière, c'est à 20h. Oh. Allez-y, débrouillez-vous pour avoir une place, parce que je crois que c'est presque complet, si ce n'est complet.
C'est complet, mais vous pouvez vous rabattre sur la Cigalière de Sérignan. Très beau lieu, très très beau théâtre également. Ça sera vendredi et samedi prochain.
Alors pour vous remercier de semer votre petite graine d'ananas, j'ai choisi comme pause musicale Léo Ferré, Graine d'ananas. Ah. Merci Daniel.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier tressé de chanvre. Il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé fort la société. Et comme j'en ai pas, faut que je lui dise pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. De la belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Potence d'oubli, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme mal est ami. Mais auparavant, j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Divergence FM, le 93.9. Et on n'a pas retrouvé le jingle sur le gaz de schiste. Bon, on le repassera très bientôt. Donc je rappelle que Léo Ferré, c'était Graine d'ananas. C'était un enregistrement de 1958 à Bobino. Vendredi Théâtre, nous continuons. Nous avons un troisième plateau avec moi, je crois pas, une pièce de Jean-Claude Grimbert qui est à Pierre Tabar. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Suzanne de Morlon. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Louis Sol, bonjour.
Bonjour.
Alors moi, je crois pas. C'est donc une pièce de Grimbert, c'est un couple qui est sur scène. Moi, je n'ai pas encore vu le spectacle, je vais le voir très prochainement. Mais Tito et Christopher, qui nous ont rejoints, ont vu le spectacle. Qui veut commencer?
Moi, je vais commencer.
Vas-y.
Mais alors, hier, en rentrant du spectacle, je me suis trituré un peu le cerveau. Comment je vais faire pour raconter l'histoire à la radio sans dévoiler ce qui donne tout son sens à la pièce, hein, et qui n'arrive que vers la fin. J'ai passé un bon moment, je ne connaissais pas du tout Grimbert, je n'avais jamais lu. Et on passe un très très bon moment au début, très, très humoristique. J'étais surpris de vous voir dans ces rôles. et j'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis dit... Mais si c'est toujours dans ce genre de théâtre, de l'humour, où est-ce que ça va? Parce que si ce n'est que ça, Je suis pas sûr que... Et puis là, tout de suite, bam, au moment où je me dis ça, l'ambiance commence à changer un petit peu et la pièce prend tout son sens, cette pièce du vieux couple qui se chamaille. Non, moi je ne crois pas, mais, non mais moi je crois. Donc voilà, c'est une pièce où on entre dedans, on est dans une ambiance et tout d'un coup ça change, ça se chamboule et j'étais après très ému et ça m'a beaucoup touché. Voilà, j'espère que là je n'ai pas tout dévoilé, c'est difficile. Hein.
Non, ce qu'on peut dire c'est que la pièce se déroule durant 12 sketchs, comme 12 heures, comme une vie, c'est une 12. Vie. Une vie avant dans le travail, madame à la maison, le monsieur travaille, et ensuite, petit à petit, ça s'enfonce dans la nuit, on va dire, et dans la nuit des couples. Et donc, c'est tout à fait, je crois qu'on peut dire ça, c'est comme les 12 heures, il y a 12 sketchs, ce sont des sketchs qui sont effectivement, avec l'humour de Grunberg, très, très décapant, très satirique, on rit, c'est aussi parfois une manière d'exacerber un petit peu le couple. Et c'est le couple dans toute sa manière de vivre, avec les enfants dont on parle et qu'on ne voit jamais, avec la télévision, là, c'est, qui joue un rôle de plus en plus important, et plus les rapports avec l'extérieur se délitent, plus le couple se renferme sur lui-même et sur cette espèce de télévision qui vont même jusqu'à couper à la fin et dire parce que les animaux, c'est tellement plus beau sans les mots. Donc ça va jusqu'au bout, effectivement, de l'enfer du couple. Mais avant, c'est vraiment le couple dans sa vivacité, dans son désir de vivre, dans son désir de s'affronter. C'est une façon de s'exprimer l'un face à l'autre. Et l'humour de Grunberg, et c'est la vie de tous les jours. Et ça parle des faillots qui font péter. Mais... Et ça parle ça parle de sexe, ça parle de 27 cm ou de 37 cm.
17
17, voilà. Voilà, on en discute. Donc, tout est vu, le vin, les souvenirs de musique, c'est une vie en 12 tableaux. Voilà.
Il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire et en même temps réfléchir, c'est « L'homme dit à un moment, les minutes sont longues, mais les années sont courtes ». Je trouve que c'est une formule magnifique. Hein.
Les jours sont de plus en plus longs et les années de plus en plus courtes. Et c'est vrai que quand on prend un petit peu d'âge, le temps semble passer plus vite, sauf quand on s'ennuie. Et voilà.
C'est une histoire de couple, je disais à Tito en sortant de la pièce, donc une histoire d'un couple qui dure depuis 30 ans. Je disais justement à Tito, je suis peut-être un peu trop jeune, je n'ai peut-être pas assez l'expérience longue du couple pour comprendre toutes ces...
Alors, moi, je l'ai, l'expérience. Et ça parle aussi du fait que, en fait, paradoxalement, la conclusion de la pièce, c'est que ce n'est pas si mal que ça de vieillir ensemble, puisque... Ils ont besoin l'un de l'autre, en fait. Et que feraient-ils, d'ailleurs, s'ils n'étaient pas ensemble, hein?
Donc,
y a quelque chose... C'est une bonne question sur le couple. C'est drôle parce que tout à l'heure, avec Marivaux, on parlait du début du couple.
C'est vrai.
Et de l'engagement. Et là, dans cette pièce, on parle de la fin du couple, en fait, plutôt. Puisque même si ça aborde en fait toute la vie du couple, le point principal c'est quand même la fin de la vie, la fin du couple, et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'on a vraiment besoin de vieillir ensemble avec quelqu'un. C'est quelque chose de primordial. On est de la génération tous ici. Sauf Christopher, qui a connu l'époque où on s'est questionné, hein, dans les années 70, hein, la question à bas le mariage, etc.
68
aussi, déjà, et avec raison, d'ailleurs, parce que le mariage était avant tout un contrat avant d'être une vie de couple. Hein. Donc ça, on avait tout à fait raison de questionner ça, et questionner la question de l'amour, et de la liberté, et du sexe, etc. Mais on s'aperçoit avec les années que... Il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait que les gens ont besoin d'avoir, la sécurité mais pas une sécurité sociale, non, même ça, si on en a besoin aussi. Mais
pouvoir parler ensemble,
voilà.
Ça c'est important.
Un médecin m'a dit une fois que des fois on avait besoin d'être la rampe, puisque la vie est un escalier, et on avait besoin d'une rampe. Et c'est intéressant d'avoir cette rampe.
Ouais, c'est un des repères.
Et servir de rampe aussi, c'est pas mal. Voilà. Et donc, c'est une pièce très profonde, au contraire de ce qu'on peut s'imaginer quand on voit les premières scènes. On se dit, on est presque... C'est pas du boulevard parce que c'est très écrit. Ça, on le voit tout de suite. C'est pas du boulevard du tout, à aucun moment, parce que c'est très écrit. Donc on sait qu'on n'est pas, mais disons à la limite dans une bonne petite pièce au début, hein, on pourrait être dans une bonne petite pièce de bourgeoise, comme on dit entre guillemets, et puis petit à petit on s'aperçoit que ce n'est pas ça, que c'est quelque chose de plus profond et de plus réfléchi, mais avec les armes quand même de ce théâtre qui a quand même ses vertus aussi. De la légèreté, hein, de la légèreté qui finit en profondeur. Voilà.
Moi, je m'aperçois qu'il y a quand même une belle cohérence dans cette émission, puisqu'on a parlé « Faut-il se marier ?» avec Marivaux, avec Daniel Villanova, on a parlé du mariage pour tous et des catholiques, et là, on parle d'un couple quand même qui vit ensemble depuis 30 ans. Donc, quand même une certaine cohérence. Alors, moi, je ne crois pas, c'est plutôt l'homme qui dit ça, et la femme dit « moi, je crois que… » C'est ça ?
Absolument. Sauf une fois. À la fin, justement, quand la balance entre le couple est en train de pencher de l'autre côté, c'est elle qui commence. Elle dit une seule fois, moi, je ne crois pas.
Oui, mais ne dévoile pas.
Voilà.
Avec toutes les précautions qui ont été prises.
Voilà. Non, mais c'est pour dire qu'il y a des surprises.
Non, mais c'est ce qui me frappe. Ça me fait très plaisir, les analyses que vous avez faites. Parce que c'est vrai que c'est une pièce qui a du fond, et c'est vrai que c'est une pièce extrêmement bien écrite. Moi, en première lecture, cette pièce, je ne sais pas pourquoi elle m'a intéressé en première lecture, mais je me disais, je ne vais pas monter ça, c'est une pièce à sketch, c'est du café-théâtre. Et puis, en travaillant dessus, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout du café-théâtre. Comme très souvent, le théâtre, il faut travailler dessus pour rendre et que ça devienne immédiatement accessible aux spectateurs. Mais en première lecture, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est du café-théâtre, que c'est sympathique, que c'est des sketchs, etc. Et alors, évidemment, c'est du plaisir, comme quand on boit un verre d'eau. Il n'y a rien dedans, mais c'est agréable, ça désaltère. Et là, en travaillant, et ce que Tito, vous venez de dire, c'est formidable. C'est vrai que c'est extrêmement bien écrit. La rythmique de cette pièce, c'est un chef-d'œuvre de rythmique. Et on rit. On rit, enfin, je pense qu'on rit énormément, au point de se dire, ça finit par lasser ce rire-là. C'est toujours pareil, des gens qui s'engueulent, mais c'est drôle parce qu'ils sont vraiment toujours, elle ne croit pas, lui ne croit pas, elle croit, ils s'engueulent tout le temps autour de ça. Mais ça fonctionne, quoi. C'est vraiment très, très bien rythmé.
Mais au moins, ils parlent, ils débattent au moins. Ils ne sont pas en face de la télé sans rien se dire, quand même.
Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait, si c'est possible, Moi, je pense.
Le départ.
Le passage avec les haricots.
Voilà.
C'est le départ et c'est lui qui risque de fausser tout et de dire c'est des sketchs, c'est du café-théâtre. Voilà, ça commence comme ça, c'est moi qui attaque.
Vas-y.
Moi, je crois pas.
Quoi ?
Que les faillots font péter.
Les faillots font péter ?
Mais non, justement.
Pourquoi tu dis ça alors ?
Pourquoi je dis quoi ?
Que les faillots font péter.
Je dis que non, je dis...
Qui dit oui ?
Mais tout le monde.
Jamais entendu ça.
T'as jamais entendu que les faillots faisaient péter ?
Jamais.
Mais où tu vis ? Où tu vis ?
Ici.
Oh, ça je sais, merci.
Quand même.
Quand même quoi ?
Si tout le monde le dit.
Ça doit être vrai.
Bah oui.
Mais voilà. Suffit que tout le monde répète la même connerie pour que cette connerie soit vraie.
Bah oui.
T'as pas remarqué qu'on est en train de nous bourrer le mou de tous les côtés depuis quelque temps, non ?
Tu crois ?
Moi, je crois pas. Je suis sûr.
T'es sûr de quoi ?
Que les faillots font pas péter. Merde, je parle français ou quoi ?
Pas la peine d'être grossier.
Grossier ou pas, je suis la preuve vivante de ce que j'avance.
Quelle preuve ?
Je bouffe jamais de faillots. Je pète tout le temps.
À ce compte-là, moi aussi.
Toi aussi quoi ?
Je bouffe jamais de faillots.
Tu parles d'un scoop.
Et je pète tout le temps.
Toi ?
Moi.
Je t'entends jamais.
C'est parce que je pète en dedans.
Tu pète-t-on dedans.
Ah, et papa, maman étaient très pratiques.
Non.
Si.
Non.
Si. Non. Mon frère et moi, on a été éduqués très cubains, c'est ce que tu veux savoir.
Non, tu confonds.
Je confonds.
Paix et gaz.
C'est pas pareil.
Mais pas pareil du tout. La preuve.
Oh, quelle preuve? Quelle preuve, monsieur, je sais tout.
Monsieur sait pas tout, mais ce qu'il sait, c'est qu'il le sait.
Pareil pour moi.
Pareil pour toi, quoi?
Bah, ce qu'elle sait, elle sait qu'elle le sait.
Ça, c'est elle qui le dit.
Bah oui, qui d'autre, sinon?
Pardon, mais tu vois, pour moi, ça ne constitue pas une preuve.
Bon, qu'est-ce que tu veux bouffer ce soir?
M'en fous.
C'est agréable.
Y a un peu de quoi?
Ça m'aide vachement.
T'as besoin d'aide pour faire à bouffer?
Je suppose que tu préfères quelque chose qui fasse pas péter.
Péter ou pas, je m'en tape.
Alors, je fais quoi?
Ce que tu veux, je te dis.
J'ai pas d'idée.
Ben, des faillots.
Des faillots?
On n'en mange jamais.
On n'en mange jamais parce que ça fait péter.
Putain, merde, fais chier à la fin.
Qu'est-ce que tu dis?
Rien, je me parle en dedans.
Prends pas ça mal, Henri, hein, mais ça devient de plus en plus dur de causer ne serait-ce que cuisine avec toi. Qu'est-ce que tu dis?
Rien, je pète.
J'aime mieux ça.
Bravo, merci. Il y a un petit côté quand même affreux, ça les méchants dans ces deux personnages.
Absolument, on est tout à fait d'accord. Mais la vie aussi parfois, hein, faut dire.
Ah, j'ai pas les horaires de Pierre Tabar, donc
c'est très compliqué les horaires de Pierre
voilà,
Tabar. C'est une bonne question. C'est jamais à la même heure chaque soir.
Alors, je les ai appris par cœur, je peux essayer?
Allez, on y va.
Alors, le mercredi et le jeudi, 19h30. Le vendredi, 20h45. Ah, ben je vois. Là, je sais pas pourquoi, 20h45. C'est sans doute pour qu'il y ait le quart d'heure Montpellierin. Le samedi, 19h30. Et là, j'ai un trou.
Et le samedi, le dimanche, 17h30.
17h30, le dimanche. Merci.
J'avais pas appris mon texte, moi. Donc.
Moi, j'ai amené mon pince-bête.
Ben donc, moi, je n'ai pas encore vu le spectacle, hein, j'ai précisé tout à l'heure. Donc, je pense que Christopher...
Oui, il faut rappeler que... Il faut quand même dire que c'est très plaisant, hein, ce genre de scène, mais la pièce ne se résume pas au comique. Hein.
Pour comprendre, il y a
beaucoup d'autres choses. Mais ça a servi quand même pour montrer que c'est bien écrit. Hein. Oui.
Alors, je me rappelle que la pièce que vous aviez jouée avant, c'était Qui a peur de Virginia Woolf.
Ah,
donc,
oui.
On était aussi dans une scène de ménage.
Oui.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. La semaine prochaine, on aura d'autres actualités. Et j'ai choisi pour se séparer Juliette Gréco, la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Voilà. Merci Vendredi Théâtre, c'est terminé. Merci aux chroniqueurs, merci à Tito, merci à Christopher et merci à Gilles à la technique. Eh bien, à la semaine prochaine et bonne semaine théâtrale.
Bien sûr, des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais, tous mes envoûtements. Je t'ai gardé de piège en piège. Tu m'as perdu de temps en temps. Bien sûr, j'ai pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour pour être vieux sans être adulte. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment, mais n'est-il pas de pire piège vivre en paix pour tes amants. Bien sûr, je pleure un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères, on fait moins confiance au hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais j'ai toujours la tendre guerre. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais.